Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver après cette soirée foot sur RTL. Alors parlons-nous de vos histoires de famille, de vos histoires d'amour ou d'amitié et de bien d'autres choses encore, puisque vous êtes au cœur de ce rendez-vous chaque soir et vous pouvez aborder tous les sujets qui vous touchent, qui vous concernent. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne d'RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Sarah et Paul vont s'occuper de vous. Marc Bisset est à la réalisation de l'émission et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nos échanges. À tout moment, vous pouvez envoyer un SMS au 64 900 avec les trois lettres RTL au début de votre message, 35 centimes le SMS. On vous lit aussi sur Facebook RTL-parlons-nous. Bonsoir Carole.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Merci. J'ai l'impression que ma voix est un peu éraillée, mais bon, je pense que.
Oh, c'est pas grave, c'est de saison peut-être un peu. Vous êtes un peu enrhumée, ouais. Il y a plein de petits virus qui circulent à nouveau partout.
Oui, c'est peut-être ça.
Non, voilà. Ça va très bien, on vous entend
ça
bien,
va?
Pas de soucis. Bon, oui.
Ok. Du coup, oui, moi j'appelais, j'étais en train d'écouter un podcast
oui.
Tout à l'heure cet après-midi d'une personne, Daniel, qui s'inquiétait de sa relation avec son fils. Et ça m'a fait penser un petit peu à mon histoire.
D'accord.
Voilà, donc elle
s'inquiétait de sa relation parce que...
Par rapport à son fils...
Oui.
C'était distant, voilà, c'était conflictuel en tout cas. J'ai entendu plusieurs histoires sur votre libre antenne de relations parents-enfants où parfois les liens
oui.
sont rompus,
oui.
où ils sont
distants
du... pendant un temps. Voilà,
oui.
c'est compliqué.
Oui, ce sont beaucoup les mères qui appellent
oui.
souvent pour
oui.
parler de.
Finalement.
D'une absence d'un fils ou d'une fille, enfin de ce lien un peu conflictuel.
Voilà, et puis il y a de la distance, il y a beaucoup d'inquiétude aussi, et moi, ben, voilà, je suis plus dans le rôle de la fille.
Oui, ben, c'est intéressant
voilà.
de vous entendre, justement.
Voilà. Donc,
j'ai
une trentaine d'années.
Oui, et vous êtes en rupture avec votre mère ?
Alors, j'ai été en fait en rupture avec ma mère.
Oui.
Donc, pendant presque 2 ans.
D'accord.
Voilà, donc moi j'ai une histoire. Mes parents ont des histoires un peu compliquées, et moi-même du coup un petit peu aussi. Et j'ai souffert un peu d'un problème lié au... J'avais des troubles alimentaires, et j'en ai encore, mais dans mon cheminement pour guérir de ça... À un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je ne pouvais plus être en lien avec ma mère. Tout ce qui venait d'elle me dégoûtait, me mettait en colère. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un rejet.
Oui.
J'ai un grand frère et une grande sœur, et ma grande sœur, elle habitait à ce moment-là avec chez ma mère. Voilà, elle fait une reconversion professionnelle, donc elle essayait de faire un peu le tampon, mais moi, je ne voulais plus de contact. Vraiment rejet total, et j'ai entendu des mamans dire qu'elles comprenaient pas pourquoi leur enfant leur en voulait,
oui.
pourquoi elles voulaient plus par, enfin voilà, plus de communication, elles avaient tant de colère quoi envers elles, elles comprenaient pas, et je pense que ma mère pendant un moment elle a pas compris non plus,
oui.
parce que
elle n'a pas compris votre colère ou le fait que vous avez éprouvé le besoin de vous éloigner d'elle.
Ben, les deux,
les
je
deux.
Pense. Ouais, parce qu'en fait, elle a tout fait avec du recul, parce que là, les liens reviennent, je m'en rends
D'accord.
compte. Et même pendant ma colère et pendant ma distance, je savais qu'elle avait fait comme elle avait pu, qu'elle avait bien fait, hein, qu'elle avait quand même essayé de... Elle avait été sincère et tout, mais je n'y arrivais pas. Enfin, voilà. Mais
ça remonte à l'adolescence, parce que vous me parlez
ouais.
de troubles du comportement alimentaire, ça a commencé à ce moment-là
oui. Bah, en fait, ça a commencé vers 15 ans. D'accord. Et depuis le collège, moi, j'étais en 15 ans, j'étais en seconde. Mais depuis le collège, j'étais j'étais très rebelle avec ma mère. Mais à l'extérieur, j'étais très sage, presque inhibée.
Oui.
Et au niveau de ma mère, enfin, quand j'entendais là, les crises du fils de Daniel envers sa mère. Moi, j'insultais ma mère, j'avais envie de la frapper. Enfin, c'était, je sais pas, je...
Ah oui.
Ouais, j'étais vraiment... Alors qu'à
l'extérieur,
qu'est-ce
qui vous rendait si en colère après elle?
Ben,
dans son comportement,
en fait,
non.
En fait, au fond, moi, c'est comme si ça me renvoyait à ma propre fragilité. Je la voyais faible, en fait.
Vis-à-vis de qui ou de quoi?
Vis-à-vis de mon père, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi. Et je cherchais les limites. Je voulais qu'elle se soigne, en fait, comme si j'appuyais
la
provoquer,
en fait.
Ouais,
comme font souvent les adolescents. Ouais. Et justement, quand vous l'insultiez, comment réagissait-elle?
Ben, elle comprenait pas, ou elle se renfermait, ou elle pleurait. Et moi, en fait, quand j'étais en colère comme ça, je montais dans ma chambre et je pleurais. J'étais triste. Je m'en voulais. Je la voyais. Oui. Enfin, c'était.
Oui, ça vous rendait malheureuse, finalement, au fond.
Ah ben oui.
Et votre père, dans tout ça, alors, il était où, lui? Parce que lui aurait pu mettre des limites, peut-être.
Mais pas du tout, parce qu'en fait, lui-même la rabaissait. Ils étaient séparés. Moi, j'ai grandi dans un contexte familial où mes parents ne s'aimaient pas. Je ne les ai jamais vus s'aimer.
Oui.
Mon père, il était dur avec elle, il la rabaissait, enfin... Et quand ils se sont séparés, je suis restée avec ma mère. Et moi, j'ai comme un peu idolâtré ou idéalisé mon père.
Il était donc, plus absent pour vous. Enfin, c'est...
Bon. Oui.
Oui.
Bah, je le recherchais, quoi. Elle était là, mais pas là, pour moi. Parce qu'elle était dans sa souffrance aussi. Elle n'a pas eu de papa. Elle a vécu dans un orphelinat. Enfin, elle a une vie difficile aussi.
Oui, oui.
Et je le savais. Mais j'arrivais pas à passer au-dessus. Et même grande, enfin grande parce que voilà, j'ai une trentaine d'années, donc j'ai grandi, j'ai compris des choses. Je connaissais son histoire, je connaissais ses souffrances, mais je n'arrivais pas à être sereine. Et c'est encore difficile aujourd'hui. Je prends un peu sur moi, mais elle-même, depuis que j'ai mis énormément de distance et que je suis revenue, je trouve qu'elle a changé.
Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a changé en elle? Vis-à-vis de vous,
je la trouve moins intrusive, plus
à l'écoute de vous.
Un peu plus, oui, peut-être c'est ça aussi. Ouais. Elle m'écoutait pas, elle m'entendait pas moi pendant toutes ces années.
Ouais. Et oui, si elle était, comme vous le dites, trop dans sa souffrance à elle, elle ne pouvait pas vous écouter, prendre en considération vos besoins à vous.
Oui, elle était... et puis beaucoup sont... Enfin, en même temps, pas centrée sur elle, en même temps centrée sur elle. Enfin...
Mais comme souvent quand on va mal. Hein.
Ouais.
Quand on va mal, la souffrance, finalement, isole des autres. Enfin, fait que beaucoup de personnes qui sont très en souffrance sont du coup très auto-centrées.
Mais ce qui était dur, parce que ça, c'est... C'est clair que quand on voit quelqu'un souffrir, ben il est dans sa souffrance, il est victime de ça. Mais là, elle, en fait, elle avait fait déjà des thérapies à la naissance de ma sœur et tout ça. Donc elle se considérait soignée, en fait. Elle se considérait aller mieux. Et moi, je voyais bien que non. Donc c'était encore plus violent pour moi, enfin... Comme si, mais non,
cette forme de résignation, finalement, par rapport à vous, ce mal-être que vous percevez.
Un déni, je trouve, carrément.
Ah oui, vous avez raison, ça peut relever aussi du déni, oui.
Parce que pour elle, elle avait fait, pas mal de thérapie, elle avait fait la paix avec son enfant intérieur et tout, et moi, je me disais, mais pas du tout, elle
c'est
est
un peu
pas
plaqué,
du tout
ça.
Guérie. Enfin,
oui, oui.
Ouais,
Oui, elle tenait des propos un peu comme
c'était
ça,
pas
un
cohérent
peu
avec ses gestes, voilà. Sa façon de faire en fait. Elle n'était pas là. Enfin, voilà.
Oui, vous trouviez qu'elle allait mal et finalement sa souffrance vous agressait et vous rendait agressive.
Ouais, ouais, c'est ça. Je rejetais tout en fait. Au bout d'un moment, c'était intolérable pour moi.
Alors, à un moment, comment, c'est-à-dire quand À quel moment avez-vous décidé de vous éloigner, de prendre un peu de distance ?
C'est quand, en fait, au moment où j'ai décidé de me prendre en main ou de me faire aider, de demander de l'aide par rapport à mes troubles alimentaires, je me suis fait hospitaliser.
Et vous souffrez d'anorexie, boulimie ou...
Les deux,
en fait. D'accord.
Voilà. Et on m'a beaucoup dit, c'est le lien avec la mère, c'est le lien avec la mère, c'est le lien avec la mère. On m'a souvent dit ça dans les thérapies.
Dans ces troubles-là, oui. Il y a d'autres causes aussi, mais il y a souvent... Alors, bon, j'imagine les auditrices qui sont mamans vont dire, eh oui, c'est toujours la faute des mères. Mais il y a un rapport, la nourriture, le premier lien, oui, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Il y a d'autres problématiques qui peuvent aussi entrer en ligne de compte, bien sûr.
Oui, moi
donc c'est quand vous, finalement assez tardivement, vous la démarche de soins, elle est venue de vous et pas de vos parents, ce qui est quand même
pas du tout.
Déjà qui n'allait pas, parce que face à une jeune fille qui est dans des troubles du comportement alimentaire aussi graves, à un moment, même si la jeune fille refuse l'aide, c'est la problématique un peu anorexique, dans le contrôle, mais les parents,
Je l'ai caché, ils l'ont pas vu.
Et oui.
En fait, la première fois, quand j'avais 15-16 ans, j'en ai parlé à ma mère. Peut-être que ça aussi, c'est ressorti au moment où j'ai voulu guérir de toute cette colère que j'avais contre elle.
Oui.
Parce que je me souviens que j'étais... Je me souviens de la discussion vaguement, parce que ça remonte, j'avais 15-16 ans et maintenant j'ai une trentaine d'années. Et j'ai traîné ces problèmes et je les traîne encore.
Et vous lui avez... Oui, c'est quelque chose peut devenir un peu chronique, mais enfin en vous mettant peut-être moins en danger malgré tout.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous parlez de cette discussion lorsque vous aviez 15 ans? Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre mère, Vince?
Ben, je lui ai dit clairement que quand je mangeais, j'allais ensuite me faire vomir.
Oui.
Que je me sentais pas bien et en fait sa réaction, ça a été ben non, faut pas vomir.
Elle a aussi un déni. Ben il y a un déni là aussi.
Ouais.
Il y a un déni de la souffrance. Alors que c'est rare. C'est rare que ça soit les jeunes filles elles-mêmes qui parlent de leurs symptômes, parce que comme vous dites, c'est plutôt la dissimulation qui prime, avec des vêtements amples. Donc, en parlant à votre mère, il y avait une demande d'aide, il y avait un appel au secours.
Mais oui, c'était clair. En fait, j'ai réussi. Ça. Je me souviens que c'était dur de verbaliser.
C'était
une souffrance, voilà. Je l'ai dit.
Oui.
Et ce que j'ai reçu, c'était une porte fermée, quoi. Pour moi.
Oui, c'est ne te fais pas vomir, mais on va
c'est
pas.
Ne te fais pas vomir, et puis c'était même pas, faut voir un psy ou faut voir quelqu'un ou si elle n'est pas en capacité, qu'on demande de l'aide à quelqu'un d'autre. Enfin,
on va aller voir quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe depuis combien de temps? C'est bien que tu en aies parlé. Et on va voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Oui, c'est refus d'entendre au fond. C'était impossible pour votre mère d'entendre
ça. Mais pour tout, c'était un refus d'entendre, d'où ma colère extrême, en fait, d'avoir envie de violence.
Vous savez, la violence et la colère portées à ce niveau-là, c'est souvent l'expression, même majoritairement, d'une souffrance. Quand on est heureux, vous savez, quand on est bien, on est rarement agressif et violent. Et chez les adolescents, particulièrement avec leurs parents, c'est que vous étiez en souffrance. Est-ce que vous pensez que votre mère a eu elle-même ce type de symptômes, de troubles du comportement? Comment?
Oui, elle a eu. Ma sœur aussi.
Votre sœur a aussi des troubles du comportement alimentaire?
Ouais, et pour moi, dans ma famille, presque tout le monde, j'ai l'impression. Mmh. Je vois mon père, par moment, il a pas faim et il mange tout un paquet d'un truc. Mmh. Mon petit frère, j'ai un demi-frère, il mange énormément, il est obèse.
Oui.
Ma petite sœur, non, mais voilà, elle est devenue presque... Enfin, ma grande sœur, ça a été par phase. Mais on a tous, je trouve, un rapport bizarre à l'alimentation.
Oui.
Et ma mère, elle est venue d'un pays étranger. Et quand elle est arrivée en France, elle a découvert les boulangeries en France.
Elle a souffert de la faim dans son pays, vous pensez?
Non.
Non, pas de privation. Ouais. Elle a été très carencée sur le plan affectif, mais pas des carences alimentaires. D'accord.
Voilà, je pense qu'elle était dans une insécurité de toute sa vie.
Oui, voilà. Oui.
Et un manque d'affection et un manque de sécurité, pas de logement fixe et tout
ah,
ça.
Ah oui, enfin, voilà, quand même. Compliqué. Oui.
Enfin, elle a été dans un orphelinat au bout d'un moment, en fait.
Oui, mais dans certains pays, les orphelinats, alors ça dépend, il y a des...
Ben, elle était nourrie. C'était strict, quoi. Oui. Mais c'était une rigueur, il n'y avait aucun affect, enfin, oui. Aucune oui. affection, oui. Elle n'avait pas de papa, sa mère n'était pas bien, enfin, voilà. Et quand elle arrive en France, apparemment, il y a eu une période où, en très peu de temps, peut-être un mois, apparemment, elle a pris une dizaine de kilos. Elle mangeait, oui. Enfin, voilà, oui. C'était... Mais c'est parce pas que... normal, enfin, c'est pas tout le monde qui réagit comme ça.
Bah, en tout cas, c'est quand on prend aussi vite du poids, oui, c'est qu'en général, il y a une compulsion derrière. Mmh. Il y a quelque chose, oui, de compulsif avec la nourriture. Oui, donc, voilà. Et avec vous, elle est plutôt, maintenant, comment elle est, votre mère? Plutôt très fine, très fluette, voire un peu maigre ou...
Ah, c'est pour ça aussi que quand j'ai commencé à vouloir guérir vraiment, j'ai dû la rejeter parce qu'en fait, j'ai entendu aussi toute mon enfance, faut pas être en surpoids. C'est bien, j'ai perdu 500 grammes, donc elle se pesait tous les jours.
Oh là là,
oui, d'être en bonne santé, c'est d'être mince. D'accord. Donc j'avais ces idées en tête et dans mon pays du côté de mon père, tout le monde est très maigre. Enfin, c'est un pays... Et là-bas, lui, il disait, ah, elle est belle, cette femme, elle est mince. Donc moi, en fait, c'était mon... Il fallait que je le sois. Et...
Mais oui, c'était érigé en norme familiale. Il y avait le culte.
Des deux côtés.
Des deux côtés, en plus.
C'était pas cohérent sur plein de trucs, mais sur ça, d'une façon différente, ça se rejoignait, quoi.
Mais je comprends mieux quand vous parlez de déni, parce qu'il y a... presque un déni de la vie psychique. Enfin, de tout ce qui relève du psychisme dans votre famille, semble-t-il. Ça se traduit...
Ben oui.
Enfin, parce que quand vous parlez de... Alors, évidemment, elle ne pouvait pas entendre, puisque c'était sa problématique, quand vous lui avez parlé de votre rapport à la nourriture.
Ben oui, elle, physiquement, ça ne se voit pas. Et même moi, je l'ai tellement bien caché que ça ne s'est jamais vu.
Oui, oui.
Mais aujourd'hui, je fais une psychanalyse. J'entends une psychanalyse et ça me fait du bien.
On entend, oui. Enfin, j'allais vous poser la question, mais on entend dans la façon dont vous évoquez vos rapports familiaux, il y a une forme de distance. On sent que vous avez pris du recul par rapport à ça.
Ben oui, et malgré tout, je suis quand même dans la souffrance encore beaucoup avec mon père. Mais oui,
ça va être votre père.
Beaucoup travaillé.
Ouais.
Oui, voilà.
D'accord. Oui, parce que mais je vous remercie beaucoup d'appeler Carole, parce que souvent face à, ce sont souvent des mères qui appellent parce qu'elles sont. Elle souffre de ce rejet d'un enfant adulte ou de ce qu'elle considère comme de l'indifférence. Et il m'arrive très souvent de dire qu'à un moment, l'enfant adulte n'a presque d'autre choix que de s'éloigner pour aller mieux. Et alors, c'est ce que vous avez fait. Et en même temps, vous êtes penché sur vous. Enfin, vous faites une analyse, vous essayez de comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est difficile parfois, c'est quand l'enfant adulte s'éloigne, mais de la distance géographique. Mais ce qui est important à mettre, c'est une distance psychique et pas seulement géographique, même si ça peut protéger. Et alors, donc là, vous, dans cette analyse, vous avez beaucoup parlé de la relation à votre mère, ce qui vous a permis de revenir vers elle, me dites-vous?
Ben, en fait, c'est au moment où j'ai commencé l'analyse que j'ai commencé un peu avant à comprendre des choses. Mais quand vous avez dit à un moment donné qu'il y avait comme un déni du psychisme, quelque chose comme ça.
Oui, il y a des familles où le psychisme, il n'y a pas de place pour le psychisme.
Mais j'ai l'impression que c'est ça beaucoup qui ressort dans mon analyse. C'est qu'en fait, je suis dans un tel déni de qui je suis, tout le temps à douter de moi, besoin d'être rassurée parce que j'ai pas le droit d'exister. Pour moi, j'ai pas le droit d'exister. Enfin, j'ai pas de place, je sais pas qui je suis, mon corps, je ne sais pas mes limites. Enfin, c'est très flou, tout est flou. Je sais pas si j'ai une bonne mentalité ou pas. Et en même temps, parfois, je suis très dure. Enfin, Et du coup, c'est ça que je suis en train de beaucoup travailler, qui remonte beaucoup à la surface. Je trouve qu'en fait, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de ressentir. Moi, moi, j'ai le droit de rien ressentir. Donc forcément, au bout d'un moment, j'ai tellement rien le droit de ressentir que c'est la boulimie qui me sauve quelque part.
Oui,
donc moi, je le voyais comme un ennemi tout le temps. Et c'est limite qui me sauve la vie. Enfin,
la boulimie, vous avez raison. Il y a quelque chose de l'ordre d'une pulsion de vie. Finalement, la nourriture vient remplir un vide intérieur.
Ouais,
et vide intérieur, parce que c'est très juste ce que vous dites, Carole. Il y a des familles où il n'y a pas de place pour l'expression des sentiments, des émotions, de la tendresse, de l'affection.
Moi, j'ai tout le temps honte de ressentir quelque chose. Oui. Je me dis, c'est peut-être pas normal. Même à un enterrement, j'ai honte de pleurer. Je me dis, peut-être que je dois moins ressentir de peine que le parent directement. Enfin, j'ai tout le temps honte. J'ai honte d'aimer, honte de ressentir, d'être fière. Enfin, et c'est ça un peu que j'apprends.
Voilà. Enfin, apparemment, vous apprenez très vite et très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des familles non seulement où il n'y a pas de place pour l'expression des sentiments et des émotions, mais il y a aussi des familles où on n'a pas le droit de ressentir. C'est finalement rien ne peut s'exprimer. Et vous avez dit quelque chose qui m'a frappée d'emblée. Vous m'avez dit mes parents ne s'aimaient pas.
Non.
Vous avez grandi, c'est dur pour un enfant. Alors voilà, comme vous dites en plus, ils ne s'aimaient déjà pas eux-mêmes, individuellement.
Ça, c'est sûr.
Mais en plus, vous n'avez pas senti, vous n'avez jamais vu de l'amour entre deux. Et alors là, vous me parlez de votre père, vous dites qu'aujourd'hui, c'est avec votre père que c'est difficile.
Oui, parce qu'en fait, ma mère, je lui en ai voulu plein de choses, du coup, pendant ce temps où j'ai commencé mon hospitalisation, parce que j'en pouvais plus, en fait, j'avais besoin juste d'une pause. Donc l'hospitalisation m'a permis de faire une pause mentale, dans un cadre, une sorte de cocon.
On s'est occupé de vous,
cocon. Oui. Voilà, je me suis un peu, j'ai le droit de penser qu'à moi, même si c'était compliqué, mais voilà. Et elle a pas trop compris ni entendu, et elle en a parlé à des gens, et du coup, ça a été la goutte d'eau. Elle me comprend pas, et du coup, gros rejet. Et malgré ce gros rejet, je lui ai exprimé. Je lui ai dit, maman, je ne suis pas en capacité d'être en contact avec toi. J'ai besoin de mettre en retrait. Je ne veux pas de contact. Je veux pas que tu me contactes, que tu m'écrives. Je suis en colère. En même temps, je t'aime. Je lui avais dit. Mais je ne te supporte pas, et en même temps je t'aime. Mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas quand je reviendrai. Voilà. Elle a quand même fait des tentatives pendant ces 2 ans qui me mettaient en colère.
Pour revenir vers vous, oui.
À m'écrire un courrier ou à m'envoyer un SMS ou à dire vu que Carole elle veut pas que je me voir, est-ce que je peux venir au dîner de famille? Donc elle était venue et moi je lui avais pas adressé un seul mot. Enfin. C'était dur, mais voilà,
Vous aviez besoin de vous éloigner d'une distance. En même temps, c'est bien que vous lui ayez dit, parce que vous avez pu mettre des mots.
Mais je prenais encore sur moi. Donc j'étais même en colère de devoir lui dire.
De devoir lui expliquer, finalement, pourquoi.
Comme si c'est moi la mère, en fait. C'est moi qui dois lui expliquer,
peut-être.
C'est moi qui dois être attentive, voilà.
Ben oui, peut-être, mais depuis longtemps, oui.
Et depuis longtemps. J'ai cette conscience-là. Elle a été mère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, j'ai aussi une certaine maturité, parce qu'elle m'a quand même donné plein de clés. Et c'est toutes ces clés autres que de la peine ou du manque d'attention qu'elle m'a donné qu'aujourd'hui, je ressens, en fait. C'est aussi ça qui m'aide à guérir. Donc parce que je pense que les mères qui parlent aussi du lien qui est rompu, elles arrivent à transmettre quand même certaines bases bonnes, parce qu'elles ont l'intention d'aimer quand même. Moi, j'ai ressenti ça, qu'elle était vraiment sincère dans son intention de m'aimer, de m'apporter du bien, mais qu'elle n'a pas pu.
Qu'elle était démunie, au fond. Elle manquait.
Mais elle a voulu.
Oui, voilà. C'est ça. Il y avait,
et c'est cette envie de bien faire qui me donne quand même de la force aujourd'hui, de me guérir, de chercher des pistes.
Oui, vous n'avez pas ressenti chez elle un manque d'amour. Vous avez compris finalement qu'elle n'a pas les.
Beaucoup de maladresse.
Oui.
Voilà, beaucoup de maladresse.
Elle a un vécu très abandonné. Elle a un vécu très abandonné avec votre mère. Vous me parlez d'orphelinat.
Ah oui. Du père, de la mère, des bonnes sœurs, voilà.
Oui.
Et mon père, à ce moment-là, j'ai compris que lui, il n'était pas sincère. Enfin, En fait, je me rejetais moi-même. Dans la boulimie, il y a une forme de rejet aussi. Et j'ai senti que tout d'un coup, mais en fait, c'est pas moi le problème, que mon père, et je suis jamais bien, je fais jamais ça bien, voilà, toujours dans la critique. Je me dis, c'est lui qui a un problème avec les femmes et avec lui. Et du coup, à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai réussi à aimer ma mère. Je me suis dit, ah, en fait, ma mère, elle est formidable. Elle a essayé de faire comme elle a pu. Elle était sincère. Elle a voulu bien me nourrir, bien me... Elle était presque, oui, parfois intrusive, mais elle l'essayait, elle était toujours présente, toujours à me dire, même si tu me rejettes, je t'aimerai toujours. Enfin voilà, même si ça m'énervait, elle était quand même là.
Oui, elle ne vous rejetait pas, alors que de votre père, vous êtes sentie mal aimée.
Ben, elle m'appelle. Ben, lui, il disait tout le temps, ma fille ne m'appelle pas, elle n'est pas proche. Et moi, quand pendant le confinement et tout ça, à un moment donné, il s'est retrouvé tout seul, je l'appelais tous les jours, il n'avait rien à faire, il était confiné. Et au bout de 2 minutes, bon, c'est bon, on a fini. Allez, salut. Et je me dis, attends, il n'a rien à faire. Il veut qu'on l'appelle. Et quand je l'appelle, il me raccroche au nez, limite. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais quel pauvre mec. Enfin,
oui.
Du coup, je l'idolâtrais.
La colère s'est déplacée, oui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup idéalisé votre père et votre mère. Le lien, c'est elle qui était là, était très conflictuelle. Oui, et aujourd'hui, vous vous rapprochez de votre mère, mais avec votre père que le problème se déplace. Vous lui en voulez beaucoup à votre père. Peut-être aussi d'avoir finalement mal aimé votre mère, puisque vous
aussi,
dites...
Aussi, mais mal aimé tout le monde, en fait.
C'est ça.
Et même lui-même. Et dans le déni aussi. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que je peux vivre en n'ayant plus de lien avec lui? Parce que ça ne m'intéresse pas. En même temps, ça me met en colère, ça me rend triste. En même temps, je me dis, mais il ne veut pas du vrai lien. C'est des fausses questions quand il se renseigne. Parce que je lui ai dit, je me suis fait hospitaliser. Ah bon? Et sinon, ça va dans ton travail? Oui, enfin, je suis en train de te dire que je me suis fait hospitaliser. En fait, il entend, ou à un moment donné, il m'avait envoyé un message, il me dit... si tu veux parler de tes problèmes, vas-y. Et puis je lui dis, pose-moi une question. Ah, et nous, on a mis 2 heures pour aller de là à là. Enfin, je ne sais plus exactement, mais... Et je me dis, mais si...
Oui, il est complètement à côté de la plaque, quoi. Vous lui parlez d'un langage affectif, avec votre sensibilité, et lui est très pragmatique et vous parle...
Et pragmatique sans même l'être, quoi. C'est du faux. Enfin, je ne sais pas, il va parler... Il va dire, les gens sont incohérents. Et je lui dis, mais toi-même, tu es un peu incohérent. Il y a des moments, donc arrête de dire ça. Enfin,
ils se sont séparés, vous aviez quel âge ?
J'étais au collège, je sais que j'étais en cinquième, j'avais 11-12 ans.
Mais
et personne ne m'a rien dit.
Comment ça, personne ne vous a rien dit?
Disons que mon père, il est parti dans son pays parce qu'il est parti tous les ans. Donc je savais qu'il avait une femme là-bas.
Ah bon? Mais oui, vous saviez comment, enfin...
Il m'avait montré des photos, que c'était la femme qu'il aimait et tout.
Mais alors qu'il vivait encore avec votre mère?
Oui, mais il ne s'aimait pas, je le savais.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même terrible. Et votre mère était au courant qu'il était marié dans son pays? Oui, mais c'est terrible de vous mettre dans ces confidences-là, malgré tout. Enfin, on comprend aussi votre colère.
Ça a des séquelles.
Bien sûr que ça a des séquelles. C'est en gros... parce que déjà... forcément, pour un enfant, c'est quand même douloureux de voir déjà des parents qui ne s'aiment pas et puis un père qui dévalorise, dénigre la mère. Enfin, il dénigre aussi le féminin.
Oui, beaucoup.
Mais là, aujourd'hui, il est en France ou dans son pays?
Il est dans son pays, tout seul.
Mais alors, avec cette... vous dites qu'il était marié aussi dans son pays?
Eh bien, cette femme-là, il la trompe avec une jeune femme de 40 ans moins qu'elle, que lui. Donc, quand j'ai appris ces choses-là, depuis plusieurs années, apparemment, ça a commencé, depuis qu'il est en retraite. Et là, je me dis, en fait, il n'aime pas les femmes. Enfin,
je comprends ce que vous voulez dire. Les femmes, il y a quelque chose qui... il est en difficulté avec
sa mère,
en tout cas avec le féminin, oui, puisque les femmes, finalement, elles passent...
Non, parce qu'il idolâtrait sa mère. C'est dans la famille, ils sont 11 enfants et lui c'était le plus sa mère, fallait pas dire je sais pas quoi.
Alors vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps votre père?
Non, ça fait pas peut-être 6 mois, un truc comme ça. Mais je l'ai croisé, on était chez mon frère et c'était la première fois que je le voyais depuis que j'avais réalisé je valais bien plus que lui. Enfin, c'est pas que je vaux plus, mais je me suis toujours sentie nulle vis-à-vis de son regard. Et là, je me suis dit, mais c'est lui qui est complètement à côté de la plaque, quoi. Il a rien.
Mais en tout cas, quand vous lui parlez de votre hospitalisation et qu'il embraye sur votre travail, c'est sidérant. Parce que, ouais. Est-ce qu'il a su pourquoi vous vous étiez fait hospitaliser ?
Mais oui, je lui ai dit.
Et il passe là-dessus comme s'il n'avait pas entendu.
Il ne s'intéresse pas, en fait. Ah oui, ah là là, ah, il fait beau aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, ce qu'il dit. Mais
ça, il y a de quoi... Je comprends que cela vous mette très en colère.
Ouais, et je me dis, mais quel intérêt d'être en contact avec un père comme
ça ? Oui, je comprends. Enfin, je comprends votre interrogation. Parce que
ma
finalement...
sœur, elle me dit non, mais lui, ça lui fait plaisir, il a quand même un lien, il ne peut pas parler de ça, il n'est pas en capacité, c'est comme s'il était handicapé, elle me dit. J'ai dit oui, mais
c'est-à-dire que... Alors, ça, votre sœur, elle est... Bon, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous mette en souffrance, vous. Donc ouais. Ça reste à... Vous avez travaillé, vous avez avancé considérablement en parlant de votre lien avec votre mère, et finalement, là, ça se déplace sur le rôle aussi qu'a tenu votre père dans votre construction. Parce que le rapport à la mère est souvent mère-fille, c'est souvent plus conflictuel. Là, parce qu'à un moment, ce modèle, finalement, pour grandir, la fille a besoin aussi de s'émanciper de la mère. Mais dans la construction de la féminité, le père joue un très grand rôle. Et finalement, là, dans ce que vous me décrivez du fonctionnement de votre père, les femmes, il y a quelque chose de... presque un peu irrespectueux, enfin...
Oui.
Très...
Ben, rabaisser...
Il y a quelque chose, on dirait un peu familièrement, vous voyez, les hommes qui, justement, idolâtrent leur mère, mais c'est le côté macho, donc la mère, elle est sacralisée, mais les femmes, non.
Non, parce que j'ai... Non, ouais. Et puis, dès que la personne est un peu fragile ou en demande de lui, il est dur. Mais quand la personne s'en fiche de lui, il est plutôt dans la séduction.
Oui, c'est ça. C'est enfin, un père séducteur. Mais ça, c'est. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un père séducteur.
Voilà, enfin, même ça, amicalement. C'est des... dans
oui,
le,
oui, mais
dans
c'est, ça relations. Fait des ravages, ça, sur les filles. Parce qu'en même temps, une fille a besoin du regard de son père
moi,
sur elle.
Moi, j'avais tellement ça.
Mais
voilà,
évidemment.
Plus que...
Mais évidemment. Pour et être et se sentir aimé, valorisé, et au-delà justement de son apparence physique, peu importe, justement dans cette période
là,
de la vie.
C'était les deux, en fait.
Ben, c'était les deux, mais c'est. Enfin, votre mère a été mal aimée et mal. Oui. Enfin, elle est. Bon, malheureusement, elle a.
C'est une histoire. Après, je pense qu'elle l'a pas choisie par hasard.
Non, non. Mais il y a quelque chose. Elle a été avec un homme qui aussi, finalement, elle était dans une forme d'abandon affectif à nouveau avec lui. Alors maintenant, quelle est votre question par rapport à ça, par rapport à parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'ambivalence qui est bien compréhensible par rapport quand vous dites mais quel intérêt d'avoir ce lien avec ce père qui au fond ça veut dire que pour le moment, quand vous l'avez en ligne, quand vous lui parlez, au fond, ça vous blesse. Bah oui. Bah oui, mais parce que vous n'arrivez pas à parler.
Oui, voilà. Bah, l'autre fois, il m'a appelé, il me demande un truc tellement bête. Enfin, je me dis, mais enfin, tout est faux. Du coup, je me dis, mais je sais pas. Enfin, il est vieux, il a pas, presque 70 ans, mais je me dis, bah, si un jour il vient à décéder, bah, je l'aurais plus jamais revu. Est-ce que je vivrai mal? Est-ce que je peux vivre en me disant bon,
vous
bah,
n'en êtes
c'est un
pas là,
mec.
D'abord.
Enfin, non, bon. Mais je me demande. Enfin, je me dis, est-ce que je dois faire la paix? Comment faire la paix? Alors, je ne sais pas.
Vous l'avez fait déjà plus ou moins avec votre mère. Donc, il y a des choses.
Oui.
Il faut travailler sur
avec
ce
la
lien.
Mère, je continue.
Ce qui est formidable, en thérapie, c'est que on peut passer de séances où, pour reprendre votre expression, vous dites, ben, super, alors à quoi ça sert d'avoir un lien? C'est un pauvre mec, pour votre expression. Enfin, on voit finalement, on sent aussi toute votre déception derrière.
Ah oui.
Et au fil du temps, rien n'est jamais figé, ça évolue. Ce qui se dit dans l'espace de la thérapie, c'est ça. Enfin, si vous voulez, on n'est jamais jugé ouais. justement sur ce que l'on peut dire et exprimer. Donc, donnez-vous le temps de travailler ce lien, parce que dans l'absolu, moi je peux pas vous répondre là, mais dans l'absolu, il est possible à un moment de dire si dans un lien qui est un lien familial, et, si finalement vous interrogez le lien, si ce lien, il n'y a rien d'affectif, il n'y a rien de tendre, il n'y a rien de profond, ça pose la question de pourquoi maintenir un lien. Et ça peut se poser aussi par rapport à sa famille. Alors peut-être qu'effectivement, parmi ceux qui nous écoutent, ça doit être choquant de dire « ben non, la famille, on ne rompt pas les liens ». Il est possible, parce que si le lien... En fait, de quel lien parle-t-on ? Et si ça met trop en souffrance, bah, on peut aussi décider d'interrompre un lien. Je crois que vous en êtes dans ce questionnement-là, mais il y a aussi, pour le moment... quelque chose qui reste à travailler, que vous allez pouvoir travailler dans l'espace de votre thérapie, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Et j'entends un amour déçu aussi. Parce que ce père a été très idéalisé,
oui.
et aujourd'hui, finalement, de très idéalisé, il passe à rien. Et il faut trouver un entre-deux. Donnez-vous le temps. Oui, donnez-vous le temps de travailler
de
ce lien.
De détester, d'être déçu, ça fait qu'en fait je commence à m'aimer aussi. Parce qu'il était tellement je me sentais tellement nulle
oui,
que de me dire d'être en colère et de le trouver lui nul, je me dis moi je suis mieux. Enfin, vu que j'arrive pas à m'aimer.
En tout cas, vous auriez aimé vous sentir valorisé dans son regard et malheureusement vous ne vous êtes pas senti reconnu, valorisé, aimé. Donc il y a un entre-deux. Bien sûr que ce qui est bien, c'est que cette distance qui s'installe en disant au fond c'est son problème à lui et peut-être son problème effectivement dans sa relation avec les femmes, dans son rapport au féminin. Et c'est pas votre problème à vous, c'est son problème à lui. Donc, à partir du moment où on comprend aussi qu'il y a nos parents, avant d'être des parents, ils ont été des enfants qui ont eu même des rapports parfois complexes avec leurs propres parents, ça permet aussi de prendre de la distance et de moins en souffrir. Parce que de moins se remettre en question. On sent la fille que vous avez été, que vous êtes encore, qui est en demande d'amour, qui a énormément attendu de ce père. Et qui a été immensément déçue. Donc, bon, il y a encore des choses qui demeurent à travailler. Pour le moment, la question ne se pose pas en termes de rupture du lien. Elle se pose plutôt en termes de travailler sur ce lien, Carole. Et vous allez très bien y arriver. Vous l'avez fait avec votre mère. L'important, c'est que vous puissiez exister sans vous faire du mal. J'imagine que ça parle à beaucoup. D'auditeurs, j'ai envie de dire, de parents, de pères, de mères, mais aussi de fils et de filles. Et je vous remercie vraiment d'avoir appelé, parce que c'est pas simple de parler comme ça de son histoire familiale, de ses parents, comme vous l'avez fait. Souvent, ça génère de la culpabilité. Et je pense que ça peut faire beaucoup de bien à de nombreux parents qui peuvent être, à un moment, en rupture de lien avec leur enfant. Ça peut aider à comprendre beaucoup de choses. Et ce que vous dites, notamment par rapport à votre mère, à un moment, vous avez éprouvé le besoin de vous éloigner pour vous protéger. Et finalement, aujourd'hui, vous revenez vers elle et avec un regard très différent et un regard aimant. Donc, il faut toujours s'accorder le temps et la thérapie aide à modifier aussi le regard que l'on porte sur ses parents. Paul, j'imagine que ça réagit beaucoup sur la page Facebook.
Vous parliez d'exister, justement. C'est ce que dit Christian. Bien sûr que vous existez. La preuve en est votre capacité à exprimer votre contexte personnel avec lucidité, clairvoyance. C'est évident. Sachez que j'ai plaisir à vous écouter, écrit Christian. J'ai plaisir à vous écouter, vous dévoiler. Ça conduit au respect. Croyez-moi, vous êtes bien là. Et il y a Cécile qui dit « Merci Carole pour votre témoignage. Parce que j'ai quelques points communs avec vous. La semaine prochaine, je vais voir ma mère à Nice et j'habite Paris. Je vais lui demander de me dire je t'aime. Alors peut-être pourriez-vous demander à votre mère de vous le dire si elle en est capable.
Si elle me le dit.
Eh bien, merci beaucoup, Carole.
Oui. Juste un petit mot, c'est bien juste sûr. Que moi, par rapport aux parents, quand ils voient que l'enfant s'éloigne, parfois, c'est quand ils prennent soin d'eux, mais vous le dites souvent, quand ils prennent soin d'eux-mêmes, moi, je trouve que le parent qui prend soin de lui-même, quand, en tant qu'enfant, on retourne vers lui, il y a moins de poids. Et
c'est
moins
vrai.
De souffrance.
Mais oui,
enfin, il y a quelque
sûr.
Chose qui s'apaise aussi de notre côté.
Oui.
Quand le parent se guérit de quelque, un peu, enfin voilà.
Oui, 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 oui. C'est vrai que souvent, par rapport à une situation, je conseille aux parents d'aller parler aussi d'eux.
D'eux-mêmes,
oui. Et il y a quelque chose qui parfois demande à être guéri dans leur propre histoire. C'est très fort, très pertinent tout ce que vous nous dites. Donc
merci
beaucoup pour votre appel et bon travail. Et peut-être que vous aussi, hein, d'ailleurs, comme Carole, sachez que vous pouvez réagir si vous écoutez l'émission en podcast sur l'application RTL. Vous pouvez revenir, même plusieurs jours après, sur des témoignages qui vous ont particulièrement touché.
Ouais.
Merci Carole.
Merci à vous.
Bon travail alors. Au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur l'antenne d'RTL. Alors vous voulez me parler un peu d'une relation amoureuse où vous posez beaucoup de questions, je crois.
Oui. Donc oui. En fait, pour résumer la situation, moi, je suis à Villefort à mon compte depuis 2016.
D'accord. Le son est un petit peu sourd. J'ai un peu de mal, mais on va essayer de faire avec. Je vois Marc qui essaie de régler un petit peu. Donc, depuis 2016, vous êtes à votre compte, agriculteur. Qu'est-ce que vous faites ? De l'élevage ou de...
Donc, moi, je suis éleveur.
D'accord.
En individuel, donc je suis tout seul sur mon exploitation, donc c'est ça qui est un peu...
Le son est très très mauvais, vous êtes dans une... Vous avez changé de pièce depuis, vous êtes sur un portable là ?
Oui, je suis sur un portable.
D'accord, c'est très très sourd, on va essayer quand même de faire avec. Vous avez quoi comme bête, des vaches et...
Donc moi je suis éleveur de bovins. À l'étang.
D'accord.
Et volaille de chair en agriculture biologique.
Ah, d'accord. Très bien. Très bien.
C'est une production qui m'a toujours intéressé et qui, le fait de passer en bio, c'était toujours une conviction pour moi.
Vous êtes d'une famille d'agriculteurs ?
Oui. Donc, Mon père était agriculteur et il est décédé lors de mon installation. Donc c'est pour ça que j'ai eu...
Oh là là, c'est dur ça.
Bah oui, j'ai l'impression, enfin, je suis pas du genre à me plaindre, mais j'ai l'impression d'avoir eu une vie professionnelle assez compliquée.
Oui, oui. Donc, il a su ça... quand même que vous avez repris l'exploitation ou...
Oui.
Il est parti sachant que vous alliez continuer.
J'étais pour signer le compromis de vente de l'exploitation en décembre.
Oui.
Et il est parti en janvier.
Donc, Oui, c'est vraiment, vous avez commencé dans... Alors que vous étiez dans le chagrin, c'est lourd. C'était lourd pour vous, j'imagine. Et puis, il vous aurait aidé, certainement, et soutenu.
Oui, enfin... Bon, j'ai appelé pas pour ce sujet-là, mais ça... Ça concerne un peu ma vie quand même.
Oui.
Mon père a jamais été vraiment présent et à me soutenir par rapport à mon projet de reprendre l'exploitation.
Ah bon, c'est étonnant ça. Il vous parce qu'il aurait pu être fier, au contraire, et heureux que vous repreniez.
Oui, je pense que en fait, on est une famille de 5 enfants. Il a toujours eu que ce soit mon frère qui soit repreneur de l'exploitation.
Et pourquoi votre frère et pas vous ? Parce que votre frère, au départ, manifestait plus le désir ou...
Ben non, je ne pense pas, mais parce que moi j'ai toujours été intéressé par qui
oui,
vache.
Oui.
Étant gamin, je passais mes journées dans les champs avec les vaches. Et,
oui.
Ben, c'est vraiment un...
Ben alors c'est bizarre, oui, qu'il ait plutôt pensé que ça serait votre frère.
Ça, c'est un truc qui me pose beaucoup de questions et que j'arriverai jamais à expliquer.
Mais oui. Et votre frère, finalement, alors lui, il a pris une toute autre voie.
Et il est parti plutôt dans le monde du cheval.
Ah, quand même. Oui, d'accord.
Oui, bah, ça reste le monde animal quand même.
Oui, oui, oui. Donc, alors, vous êtes un jeune agriculteur, parce que vous êtes, je vois que vous avez 32 ans, là.
Oui.
Donc, quand vous avez commencé, ben, vous n'aviez même pas 30 ans.
Eh bien, je me suis installé à 27 ans. Donc, je me suis rendu compte que, oui, bah, je ne sais pas, ça devient presque un peu naturel. On est beaucoup dans cette situation-là, à s'installer jeune. Mais je me rends compte que, en fait, gérer une exploitation, c'est pas aussi simple que ça. Et quand on n'a pas une vie sociale qui est présente à côté, ben ça devient pesant et compliqué à gérer, quoi.
Ça vous prend tout votre temps, quoi, toute votre énergie. Vous êtes assez seul.
Et en fait, c'est ce sentiment de solitude qui est assez pesant, quoi.
Oui, certainement. Bah oui, c'est ce qu'on entend. Il y a une profonde solitude, oui, chez les agriculteurs, effectivement. Et parce que vous faites, enfin, surtout quand on a des bêtes, c'est vous pouvez pas les laisser, vous pouvez pas, enfin, c'est 7 jours sur 7,
c'est un travail quotidien et un stress quotidien aussi.
Oui. Et pourtant, vous avez rencontré quelqu'un, là, il y a un an.
Voilà, donc c'était un peu le sujet de mon appel.
Oui, oui.
Donc, au tout début, tout allait très bien.
Oui.
J'étais assez confiante de cette relation. Et plus ça va, plus je me pose des questions parce que c'est quelqu'un... Enfin, moi, je suis assez ouvert d'esprit. Mmh. Originaire de Côte d'Ivoire, qui m'a laissé espérer beaucoup de choses.
Oui, mais vous l'avez rencontré sur un site de rencontre ou...
Oui.
Oui, d'accord.
Après une relation assez compliquée, donc j'étais assez méfiant pourtant. Enfin,
oui, mais bon, pourquoi pas? Enfin,
bah oui.
Oui, vous êtes lancé quand même à nouveau. Mais elle est en France, cette jeune femme.
Oui, oui, elle est déjà aux études en France, donc c'est pour ça que j'étais assez rassuré.
Oui.
Et par le fait aussi qu'elle est 50 plus que moi même.
Parlez bien, en fait, la bouche bien près du, vous voyez, du téléphone. C'est pour ça que par moment, c'est un peu sourd.
D'accord. Là, c'est mieux, là ?
C'est un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Alors, elle fait ses études en France, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Donc, et puis, bah, moi qui suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi, j'étais un peu impressionné de ça, du fait qu'elle soit plus vieille que moi et du fait qu'elle ait un niveau d'études de doctorante, quand même.
Elle est doctorante. Elle fait quoi? Elle est dans quel domaine?
Un doctorat en histoire.
En histoire, d'accord. Oui. Et elle a quel âge, elle?
Elle a 37 ans.
Oh, ça va, c'est pas énorme. Vous avez 5 ans d'écart. Mais, vous étiez un peu impressionné par...
Oui, et puis je pense que c'est aussi... Enfin, pour ma part, c'était un peu impressionnant aussi.
Oui, bah, je comprends. Et puis vous, bon, quand on est amoureux, parfois on est un peu impressionné.
Oui, oui.
Aussi. Alors, vous dites qu'au départ, ça se passait très bien, malgré tout, entre vous, et que maintenant, vous vous posez des questions. Pourquoi ?
Et donc, au début, bah, elle était plutôt à me glorifier. Enfin, me glorifier, non, c'était pas le terme. Enfin, si, un peu.
Elle était admirative de...
Voilà. Elle me trouvait courageux, elle me trouvait assez...
Il y a
assez...
des petites coupures.
Oui.
Donc,
elle me trouvait assez courageux. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle m'a quand même posé des distances. Elle me répond moins au téléphone. Donc, je commence à être inquiet de l'avenir de la relation.
Elle n'est pas dans votre région ?
Non, elle est à 200 km de chez moi, donc c'est ça qui me pose un peu le problème.
Vous avez parlé, Adrien, c'est dommage parce que le son est vraiment pas bon. Il faudrait vraiment... D'accord. Il y a des moments où c'est mieux. Il faut vraiment que vous mettiez votre bouche tout près du combiné pour qu'on puisse vous entendre. Sinon, c'est très très sourd et ça complique un peu notre échange. J'en suis désolée. Donc en fait, vous êtes à 200 km. Et vous arrivez à vous voir à peu près à quel rythme ?
Eh ben, tous les 15 jours environ.
Tous les 15 jours. Vous voyez, là, c'est bien. Hein, ne bougez plus, parlez bien. Là, c'est bien. Donc, tous les 15 jours. Mais vous trouvez que depuis quelque temps, elle est plus distante ?
Eh ben, en fait, c'est plutôt le fond de notre histoire, quoi, qui me paraît un peu... un peu compliqué, quoi. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et moi, qui ai tellement peu confiance en moi,
oui.
je me suis engagé dans une relation qui ne me convient peut-être pas. Et,
d'accord.
Et, bon. Et c'est pour ça que je parlais de mon métier en même temps.
Oui.
Je me dis, moi qui ai déjà subi des déceptions, je me suis peut-être trop engagé dans cette relation, sachant que je cherchais peut-être la sécurité.
Oui, mais si vous en arrivez un petit peu au constat que cette histoire finalement ne vous correspond peut-être pas, il est toujours possible de se désengager. Parce que qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas ou plus sur la même longueur d'onde ? Sur quel sujet ?
Sur le fait de la distance qu'on a entre nous deux. Et
ça
en
vous
fait,
pèse,
en fait,
ça. Oui.
Oui. Moi, c'est même pas qu'une histoire de cette relation, c'est oui. Le fait de la solitude dans l'agriculture.
Ah, mais que vous aimeriez finalement qu'elle s'investisse avec vous au sein de votre exploitation ?
Bah, je pense, et puis qu'elle soit plus présente.
Oui. Oui, alors il y a deux niveaux. C'est-à-dire que la solitude vous pèse beaucoup.
Oui, c'est le premier problème que j'ai dans ma vie.
C'est tous vos. Ben oui, parce que toutes les responsabilités que vous avez, ce travail très exigeant, ben vous êtes tout seul à le porter. Mais est-ce que vous dites au départ, elle vous valorisait quand même, elle était admirative justement de votre courage, et maintenant vous sentez un peu moins. Enfin, vous vous sentez moins porté dans cette relation.
C'est ça, oui. Et puis, oui. Du coup, moi, je me sens un peu paumé dans cette relation et j'ai l'impression de perdre du temps parce que.
Oui.
Parce que je me dis, ben, mais si je mets un terme à cette relation-là, étant tout seul, isolé dans ma ferme, est-ce que je vais réussir à passer à autre chose et est-ce que je vais pas finir vraiment seul comme beaucoup?
Oui, ça vous inquiète. Bon, on va continuer à se parler hein, de ça, de cette solitude qui vous pèse, de cette relation. On va marquer une petite pause, le temps des infos, de minuit. Vous restez encore un peu avec nous, parce que vous vous couchez tard et vous vous levez tôt, vous. Hein.
Bah oui.
À quelle heure vous êtes sur le pont, ce matin?
Vers 7h.
Vers 7h. D'accord. Bon, allez, on marque une pause, Adrien, et on se reparle tout de suite après les infos. À tout.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
C'est la suite de Parlons-nous. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Et si vous désirez me parler, c'est très simple. Vous nous passez un petit coup de fil. 09 69 39 10 11. Et on va tout de suite retrouver Adrien. Merci d'avoir patienté, Adrien. Alors Adrien, vous êtes un jeune agriculteur de 32 ans, vous élevez des bovins et des volailles. Depuis un an, vous avez rencontré une jeune femme originaire de la Côte d'Ivoire, qui est doctorante en histoire. Et vous auriez bien aimé, parce que c'est lourd d'être seul sur une exploitation, la solitude vous pèse beaucoup, c'est le problème de beaucoup d'agriculteurs. Et en fait, depuis, vous sentez bien qu'elle n'est pas prête à vous rejoindre. Alors, vous voyez tous les 15 jours, elle est à 200 km, mais finalement, même si vous êtes avec elle, vous vous sentez toujours aussi seul, quoi.
Je me rends bien compte qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes, quoi.
Voilà. Donc, oui.
Alors, c'est un autre souci, ça. Je me pose beaucoup de questions sur moi-même. Est-ce que je suis quelqu'un vraiment de confiant en moi-même et qui est prêt vraiment à s'être engagé dans cette relation-là, quoi.
On sent un désir chez vous, c'est plutôt...
Oui, alors...
Même si vous dites, vous manquez un peu de confiance en vous, mais vous, dans l'absolu, vous aimeriez... Parce qu'il y a deux choses, il y a la solitude inhérente à votre métier et le fait que c'est dur d'avoir tous les problèmes, toutes les responsabilités. Est-ce que vous me dites, on est plusieurs dans ce cas-là, donc vous avez d'autres jeunes agriculteurs autour de vous, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas un peu...
Si, il y a du soutien à ce niveau-là. Mais moi, j'ai l'impression que auprès du grand public, ce n'est pas forcément très bien compris la charge mentale qu'il peut y avoir. Enfin, la... Au niveau administratif et tout ce qui s'ensuit, quand on se met quand même beaucoup de d'argent sur le dos et puis on a quand même une responsabilité. Et quand on a des animaux, il y a forcément une responsabilité derrière.
Bien sûr. Oui, et puis avec des animaux, c'est du 7 jours sur 7. Hein.
Ben voilà, enfin, on peut pas comparer un éleveur avec un viticulteur ou un céréalier.
Ah là, c'est pas du tout le même boulot, ça je suis d'accord avec vous.
Dans le monde agricole, il y a plusieurs... Il y a plusieurs métiers dans un métier, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est... Le vote est extrêmement prenant et c'est vrai que c'est dur d'être... L'isolement, la solitude. Mais, alors, elle est en plus... Elle, vous me dites, elle est doctorante, donc elle est dans la rédaction de sa thèse, là, qui lui demande aussi, j'imagine, un bon moment. Vous êtes dans deux univers... Je ne sais pas ce qu'elle envisage, elle, mais quoi, c'est de donner des cours, elle veut enseigner.
Eh ben, le problème, c'est que c'est pas clair, quoi. Donc,
qu'est-ce qui est pas clair? C'est-à-dire que vous aimeriez, vous lui avez dit.
Moi, pour vous présenter les choses clairement, en clair, elle me dit qu'elle a encore 2 ans d'études. Donc, ça veut dire 2 ans à distance, à 200 km. Et elle veut mettre quand même une grossesse en route. Donc, ça ne me va pas du tout. J'ai déjà dit plusieurs fois.
Oui, je comprends.
Donc, moi, je pense être quelqu'un de sensé et je me dis avoir un enfant et louper les premiers jours et louper la grossesse, ça sera toujours quelque chose qui va mettre un éloignement avec
Moi, je comprends votre réticence. Vous avez la tête sur les épaules.
J'ai l'impression d'être logique et quand je dis ça, j'ai l'impression qu'elle me traite d'égoïste,
Mais oui, mais parce que elle a 37 ans. Elle a 37 ans. De son côté, on comprend sa demande et qu'elle ait envie d'avoir un enfant. Mais vous, de votre côté, votre point de vue, il est aussi complètement légitime. C'est vrai que si elle a encore 2 ans d'études, qu'elle est à 200 km, donc la grossesse, elle va être loin, le bébé, vous pourrez pas le voir, enfin. Ça se réfléchit parce que
est-ce qu'on peut imposer ça à un père, parce que moi j'ai quand même des frères qui ont été parents et moi je me vois pas supporter ça et ça pourrait me
mais vous avez raison, quand bien même son désir est légitime de vouloir un enfant, ça ne s'impose pas à un homme et à un futur père et vos arguments s'entendent tout à fait, Adrien.
Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question.
Oui, j'entends ça, mais...
C'est une qualité ou un défaut, j'en sais rien.
C'est une qualité, par rapport à des gens qui ne se remettent jamais en question, c'est toujours les autres qui sont responsables, ou pas gentils, ou je ne sais quoi. Mais finalement, là, peut-être un peu trop, parce que votre point de vue, il s'entend. Enfin, c'est-à-dire que vous n'allez pas non plus pour lui faire plaisir. Vous voyez, c'est d'un enfant dont il s'agit, c'est pas... Bon, c'est un engagement à vie. Donc, donc là, vous êtes dans une situation un peu trop instable actuellement pour finalement partir dans un projet de paternité pour vous. Ça s'entend ?
Et moi, quand je lui expose mes états d'âme, en lui disant que ça me fait souffrir, elle a déjà la relation à distance et il n'y a pas de quoi.
Parlez bien, bien à nouveau dans le téléphone, Adrien.
Quand je lui fais part de mes états d'âme et que je lui dis que je souffre de cette relation et de ce projet d'enfant à distance, elle me dit que je dois m'endurcir et que je suis trop sensible. Alors,
sa réponse, elle est complètement inappropriée. Qu'est-ce qu'elle veut ? Non, mais parce qu'à ce moment-là, attention aussi, hein. Attention, Parce que finalement, quand elle vous dit bah, écoute, t'as qu'à t'endurcir, t'es trop sensible, ça veut dire qu'elle nie complètement vos interrogations qui sont encore une fois légitimes et fondées. Ben, c'est-à-dire que ça montre que vous êtes quelqu'un de responsable et que si justement vous vous engagez dans la paternité, c'est pour pouvoir être présent auprès de cet enfant. Mais attention à vous. Parce que elle est peut-être en train de vouloir, et c'est ce que vous sentez peut-être au fond de vous, vouloir un peu vous forcer la main. Et finalement, elle, elle veut un enfant. Et bah, après tout, père ou pas père, une fois qu'elle a cet enfant, vous voyez, c'est ce qui compte.
Oui, et après, moi, je pensais être plus intelligent que ça pour me faire avoir. Mais là, du coup, je me...
pour ne pas vous faire avoir, faites attention quand même, dans le doute, puisque vous vous voyez tous les 15 jours et si vous avez. Si vous faites l'amour avec elle, de vous protéger. Hein, parce que là, tel que c'est parti, je pense qu'elle est claire, elle vous dit qu'elle veut un bébé et un jour elle va vous appeler en me disant voilà, je suis enceinte. Donc attention. Et ce qu'elle cherche, c'est pas forcément un père, mais comme le dit une auditrice, ça peut être un géniteur. Parce que c'est nier complètement, je trouve, votre place en disant, écoute, t'es trop sensible, il faut s'endurcir. Quand on envisage on ne demande pas à son compagnon et à un futur père de s'endurcir. Mais ce qu'elle veut, c'est peut-être quelqu'un, un homme qui lui fait un enfant. Et après, une fois qu'elle a l'enfant, bye bye.
Oui, je me la suis posée beaucoup cette question justement ça me détruit parce que je ne m'attendais pas à ça.
Il vaut mieux, je comprends hein, votre déception Adrien, mais il vaut mieux au fond, elle pourrait, vous savez, elle aurait pu ne pas en parler du tout. Et finalement, vous annoncez « je suis enceinte » et vous mettre devant le fait accompli. Bon, elle en parle quand même. Donc, je comprends votre déception, mais il vaut mieux finalement que vous preniez conscience de cela maintenant qu'une fois qu'il y aura un bébé en route. Hein. Parce que là, ça serait notre paire de manches. Je vais vous lire, il y a Brigitte qui dit « oh là là là, ce sont des complications assurées. Est-ce que vous êtes vraiment très amoureux d'elle ?» si c'est pas indiscret. Il y a Bob le timide aussi qui dit, bon, on sent que vous êtes quelqu'un de sincère, de gentil. N'avez-vous pas l'impression qu'elle cherche un peu à se servir de vous? Faites attention. Vous le dites vous-même, vous avez peur de la solitude, mais finalement, vous êtes dans une relation de couple, mais vous êtes seule, là. Quand même.
C'est ça qui me fatigue, en fait.
Oui, mais ça se comprend. Et peut-être que finalement, vous voyez, encore 2 ans, elle risque... Attention à ce que vous ne vous retrouviez pas un jour, qu'elle vous dise « je suis enceinte » ou qu'elle ne vous le dise pas et qu'elle parte avec le bébé. Soyez prudent. Et après tout, il vaut mieux... Vous n'avez que 32 ans. Vous avez eu des expériences amoureuses. Vous me dites des déceptions. Mais ça, vous savez, Adrien, ça arrive à tout le monde d'avoir des déceptions jusqu'à ce qu'on trouve la personne qui vous correspondra. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Vous n'êtes pas du tout... Elle est encore dans ses études. Elle est visiblement dans un projet d'enseigner. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui serait à vos côtés, qui peut-être... ne voudrait pas travailler au sein de l'exploitation, mais qui pourrait déjà vivre à côté, enfin dans la région, qui serait avec vous le soir, et vous pourriez partager ben, un peu les soucis que vous avez eus dans la journée, enfin, il pourrait y avoir un échange, même si elle ne travaille pas avec vous dans l'exploitation, voyez ?
En fait, ce que je demande, hein, c'est une présence, c'est pas forcément la main-d'œuvre.
Eh bien alors, vous avez su... avec cette personne, à un moment, vous sortiez d'une déception, vous inscrire sur un site et avoir cette histoire avec elle, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable, à nouveau, de dire, et en lui disant gentiment mais fermement, ça ne me correspond pas. C'est pas stable, tu parles d'enfant, moi je ne suis pas prêt à avoir un enfant dans ces conditions, il vaut mieux qu'on se sépare.
Oui.
Ça peut se dire, ça. Et vous êtes légitime à le dire. Vraiment. Parce que je comprends vos scrupules. Plutôt que de reporter, et en reportant, ben je vous dis, un jour, vous risquez d'avoir un coup de fil. Je suis enceinte. Donc prudence, faites attention à vous. Vraiment.
C'est justement ce que j'avais du mal à comprendre, c'est sa réaction quand j'ai dit ça. Je faire à 200 km.
Mais parce qu'elle ne veut pas. Mais enfin, vous voyez bien qu'elle ne veut pas entendre. Ce qu'elle veut, c'est un enfant. Bon. Donc, elle ne veut pas entendre vos points de vue et elle veut un enfant et elle voit plus. Bon, elle a 37 ans, elle a ses raisons, mais vous n'êtes pas. Vous êtes quelqu'un de responsable. Et c'est ce que vous pourriez lui dire la prochaine fois. Dire justement parce que je suis responsable, je n'envisage pas de faire un enfant alors qu'on est à 200 km, qu'on n'est pas ensemble. Non, c'est pas, les conditions ne sont pas réunies pour avoir un enfant. Et vous, vous n'êtes pas dans une urgence. Vous avez 32 ans, vous avez le temps de trouver quelqu'un qui vous correspondra davantage. Bon courage, Adrien.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne soirée, au revoir.
Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Muriel. Muriel, vous êtes avec
nous ? Caroline ?
Oui, bonsoir, je vous entendais pas.
Ah oui, parce que j'avais... puisque Paul m'a dit de ne pas mettre le haut-parleur.
Ah oui, non, c'est mieux. On a eu déjà un petit souci de son. Sinon, à la fin de l'émission, Marc n'aura plus de doigts. Parce que là, déjà que le son n'était pas très bon. Donc non, non, pas de haut-parleur. C'est parfait, Muriel. Bon.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Très bien, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Oui.
Alors moi, en fait, je voulais témoigner puisque vous aviez demandé hier à l'antenne s'il y avait des personnes qui pouvaient témoigner sur le cas de la personne. C'était Laurence, hein, je crois.
Ah oui, Laurence qui avait se demandé si elle allait tenir le coup après une rupture amoureuse, de pas craquer, voilà, après, de pas rappeler.
Voilà. Oui. De pas rappeler, parce oui. qu'en fait, moi, en l'écoutant, ce que j'en ai déduit, parce que compte tenu de mon parcours de vie, je pense qu'elle était dans une, enfin qu'elle est dans une dépendance affective et que moi j'ai vécu un peu, enfin pas le même profil bien sûr, mais j'ai eu une enfance difficile et je pense que moi, ce que j'ai vécu, c'était ensuite... Bon, je passe les détails parce que ça serait bien trop long et j'ai vu avec Paul.
Non, non, mais vous pouvez... Alors, c'est vrai que malheureusement, il est minuit 21 et qu'on... je dois rendre l'antenne à 30, mais...
Oui, bien sûr, mais...
Est-ce que vous avez vu avec Paul ? Nous, on ne le sait pas, donc n'hésitez pas quand même à me parler un peu. Hein. Oui, oui.
Alors... J'ai, suite à un décès de mon frère qui est décédé tragiquement, enfin mort noyé,
Dans l'enfance,
moi j'avais 10 ans à l'époque.
Oui.
Et bien évidemment, c'est le frère qui est décédé qui a été mis sur un piédestal et moi en fait rejeté. Bon, à la suite de ça, À 20 ans, je me suis mariée et 4 mois après, ma mère se suicidait. Donc, j'ai vécu terrible. Donc finalement tout ça comme un abandon. Et pour faire un petit peu plus court, j'ai dû divorcer parce que c'était pas évident. J'ai fait une dépression, etc. à ce moment-là. Et culpabilité de la mère, bien évidemment.
Elle s'est jamais remise, vous pensez, de la mort de votre frère ?
Ah oui, non, elle s'était jamais remise. Elle a fait une dépression tout le temps. Et moi, je me suis mariée, après, elle a mis fin à ses jours. Et finalement, moi, c'est moi qui ai provoqué mon divorce ensuite. Et j'étais quand même dans l'ambivalence parce que je recherchais ensuite... j'avais du mal, effectivement, à supporter la solitude.
Bah, c'est compréhensible au vu de votre histoire. Oui, il y a de l'abandon, là, c'est terrible.
Voilà. Ouais. Bien que j'ai eu envie de rencontrer quelqu'un, mais je n'ai jamais revécu avec quelqu'un. C'était des week-ends, c'était... Voilà.
Oui.
Et je pense que à un moment donné, quand après j'ai perdu mon père, j'ai entamé une psychothérapie analytique avec qui je suis tombée sur vraiment un très bon psy et on a fait vraiment un bon travail.
Oui.
Et J'ai réussi, si vous voulez, à ne plus être dans cette dépendance affective. Mmh. Et ce que j'ai ressenti hier dans cette personne,
oui,
c'est que elle rejouait. Enfin, on rejoue quelque chose. Comme un fait d'exploit, on tombe toujours sur des personnes qui ne vous, qui vous rejettent en général.
Mais
ne...
Vous avez raison. Oui, et voilà. L'analyse apprend cela, c'est que inconsciemment, on rejoue quelque chose de notre histoire, de nos liens d'attachement, de jusqu'à ce que finalement on l'intègre.
Voilà, tout à fait.
Jusqu'à ce que finalement ça devienne conscient et qu'on comprenne ce qui est en jeu. Mais du coup, sinon, vous avez raison, malheureusement, on peut revivre des situations de rejet, des situations d'abandon.
Et donc, moi, c'est grave, c'est pour ça, hier, quand j'entendais, surtout à un moment donné, quand cette personne lui dit, mais rappelle-moi, voilà, et elle la rappelle, et là, bingo, elle l'envoie carrément dans le mur.
C'était terrible, oui. Elle était très touchante, Laurent, je vous remercie d'avoir appelé. Et en plus, elle est dans une situation bien difficile, puisqu'elle est en train de vider la maison de ses parents, enfin, elle est dans un deuil, enfin...
Et... Moi, je me suis dit, il faut absolument qu'elle court chez le psy,
qu'elle fasse
un travail et qu'elle arrête
de se faire mal.
Voilà, parce que moi, c'est ce que j'ai, grâce à cette thérapie. Après, finalement, aujourd'hui, j'ai 69 ans, mais maintenant, c'est terminé. J'arrive à dire, non, mais attends, tu me dis ça, mais non, je comprends pas. Enfin bon, je remets les gens à leur place et si ça ne va pas, je terminé, quoi, je veux dire, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec tout le monde.
Mais oui, mais parce que finalement, c'est vrai que quand on a très peur, quand on cherche à être aimé à tout prix, on accepte parfois des choses qui sont inacceptables. Voilà, par peur de l'abandon. Donc quand vous dites.
Et on souffre.
Mais oui, mais bien sûr.
Et on souffre.
Et on s'oublie, en fait, dans la relation.
Tout à fait.
C'est-à-dire que les besoins de l'autre passent avant les nôtres.
Avant les nôtres. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Donc
merci l'analyse, en fait.
Tout à fait. La personne la plus importante, c'est soi-même.
Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement vrai. Et malheureusement, parfois, c'est pris encore par certaines personnes comme de l'égoïsme. Alors que c'est tout sauf ça. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, si on ne se traite pas avec bienveillance, avec indulgence, mais forcément, dans les relations avec les autres, ça va mal se passer. Parce que, et c'est pour ça que pour certaines personnes d'ailleurs, aimer est si compliqué, voire si douloureux. Parce qu'en fait, on peut se perdre dans une histoire d'amour.
Oui,
à vouloir tout donner à l'autre, à faire passer l'autre avant soi-même. Il ne faut jamais oublier que deux, c'est un. Enfin, c'est un plus un, hein. C'est pas le 2, là, tout d'un coup, la fusion, on est pareil, on pense pareil.
Pas du tout. Souvent, en thérapie, je disais, je cherche ma moitié de pomme.
Il me disait, mais c'est vous, vous êtes vraiment
une pomme qui de penser ça. Enfin, parce que, vous savez,
il avait de l'humour, il était extra. Ouais.
J'ai eu un psy qui a été formidable.
Oui, apparemment.
Qui ne prenait pas de gants pour me dire ce qu'il avait à dire.
Oui, mais certainement avec beaucoup de bienveillance quand même, parce qu'il avait envie que vous avanciez. Mais il vous disait clairement les choses. Oui.
Voilà.
Mais il avait de l'empathie. Il avait de l'empathie pour vous. Parce que quand on a de l'empathie, on peut dire clairement les choses.
Voilà. Et puis ça a été, si vous voulez, progressivement. Au début, il était très bienveillant, etc. Puis au fur et à mesure qu'on avançait, parce qu'il fallait aussi que je comprenne que, parce que bien évidemment, je suis rentrée dans un transfert très fort, puisque
il
était là. Il était toute compréhension pour moi.
Oui,
donc,
c'était l'homme idéal.
Après, il a fallu en sortir. Donc, voilà. Et apprendre, en fait, pour pouvoir être bien avec quelqu'un, il faut être d'abord, dans un premier temps, être bien avec soi-même.
C'est tellement vrai. Et puis, mais vous savez, malheureusement, chercher sa moitié, on l'entend encore tellement souvent, ça fait partie des idées reçues sur l'amour. Ouais. Comme si... c'est vrai que ce sont nos manques qui nous font avancer et qui nous mettent en mouvement, justement, pour partir à la rencontre de l'autre. Mais à un moment, si on attend que l'autre complète nos manques. Faut pas oublier que l'autre aussi est un être manquant.
Donc, exactement, oui, oui, oui.
Il faut arriver à une notion de complétude. Ça ne veut pas dire se suffire à soi-même, être dans quelque chose d'un narcissisme exacerbé. Mais en tout cas, de chercher sa moitié, ça veut dire qu'on est incomplet. Il faut chercher justement à essayer de, de s'apprivoiser, de se comprendre et au fond d'être au plus près de soi-même, quoi.
Voilà, exactement, faire des concessions, etc., etc. Mais enfin, aujourd'hui, moi, je suis célibataire et je suis très bien. J'ai un petit fils adorable qui me dit des mamies, je t'aime. Et là, je suis
et là, c'est un amour inconditionnel. Ben, je comprends. Mais vous avez raison de le dire. C'est vrai qu'on peut être célibataire et heureuse aussi.
Exactement. C'est... Tout à fait.
Bien sûr, bien sûr.
Je fais ce que je veux, quand je veux, quand je
chante. Ben, j'espère en tout cas que Laurence sera à l'écoute et que ça lui aura fait certainement beaucoup de bien de vous entendre. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Tiens, il y a Cathy qui dit oui, c'est bien la moitié de pomme, mais sans les pépins. C'est très juste. C'est très lacanien, c'est bien vu. Je vous embrasse, ma chère Muriel. Merci beaucoup pour votre appel.
Merci beaucoup pour vos émissions que j'apprécie aussi également.
C'est gentil, merci beaucoup. Merci à tous pour vos témoignages, pour vos interventions, souvent pleines d'humour, comme à Cathy à l'instant. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end. Vous serez en compagnie de Georges Lang, bien sûr, ce week-end sur RTL. Et nous, on se dit à lundi, les amis.